Alors, bonjour. Je crois que Françoise Dolto disait bonjour à tous et à chacun. J'ai vu certains d'entre vous ce matin, donc rebonjour pour eux et bonjour aux autres. Donc, je suis Chantal Calatayud, je suis psychanalyste et didacticienne analytique. J'ai créé, il y a plusieurs années maintenant, l'Institut français de psychanalyse appliquée sur Avignon. J'ai choisi de présenter donc une hypothèse analytique quant au sujet d'aujourd'hui, quelle parole face à l'IVG, selon quatre grands axes. Tout d'abord, l'embryon, un sujet à part entière, et je mettrai les raisons qui m'ont poussée à ne pas mettre cette phrase à la forme interrogative, malgré l'antinomie des termes embryon et sujet. Ensuite, peut-on parler de violence dans l'IVG ? Je dissocierai la violence psychique de la violence physique. Des parents vulnérables à l'IVG, de quel profil de parents s'agit-il face à l'IVG et qu'appelle-t-on vulnérabilité donc en analyse dans ce cas-là ? Et enfin, comment accepter la vie lorsque Thanatos, la pulsion de mort, règne et prend le pouvoir sur la pulsion de vie Eros ? Donc je vous disais il y a quelques instants qu'il y a une réelle difficulté à faire flirter les termes embryon et sujet. Si on se réfère à Sigmund Freud, le terme de sujet n'est envisagé qu'à la fin de la période dite d'identification à la mère. On retrouve des choses similaires quant à la périodicité. Chez Carl Gustav Jung, il parle d'individuation. Quant à Jacques Lacan, pour lui, il s'agit du stade du miroir. Et je pourrais citer encore Spitz, un psychiatre américain d'origine hongroise, qui situe le terme de sujet aux environs du 18e mois de la vie de l'enfant. Donc on voit que de toute façon, même si tous les courants ne sont pas d'accord d'ailleurs à ce sujet, l'enfant de toute façon, dans tous ces cas-là, est déjà venu au monde. En ce qui concerne l'embryon, et si la médecine a beaucoup évolué en ce qui concerne l'organogenèse, notamment grâce à l'échographie, grâce aux compétences des échographistes, il est certain qu'au niveau de la psychogenèse, l'embryon reste une énigme à part entière. Donc toujours pour construire une hypothèse analytique, je suis partie de deux choses qui me sont apparues importantes quant à l'embryon. Tout d'abord, une phrase très lapidaire de Sigmund Freud, un grand libéral qu'il était, et qui nous a asséné, l'anatomie, c'est le destin. Il est certain que déjà dans cette notion de destin, il y a quelque chose de l'ordre de la prédétermination, même si cela peut sembler tout à fait illogique quant à la position, bien sûr, d'un embryon. Et puis surtout, des travaux qui sont très importants, un postulat de Freud toujours, le par-excitation. Le par-excitation est un processus psychophysiologique qui amoindrit les traumatismes venant de l'extérieur pendant la gestation. Freud de dire que si l'embryon ne bénéficiait pas du par-excitation, il se diviserait d'avec lui-même, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas se développer. Cependant, et comme toujours chez l'être humain, il y a ambivalence, c'est-à-dire ce par-excitation qui est très protecteur, va présenter une sorte d'inconvénient, à savoir que l'embryon donc, est coupé de l'altérité, il pose même un déni quant à l'autre, et de fait, il va vivre malgré tout un état de toute puissance, et on parle déjà de narcissisme primitif. Effectivement, l'embryon peut déjà se vivre le maître de l'univers. Si nous nous situons à l'extérieur, nous allons effectivement trouver la première personne qui soit en lien avec l'embryon, c'est-à-dire la mère. Et l'embryon déjà a une communication avec elle. C'est-à-dire que ce que nous constatons chez une jeune femme en début de grossesse et dans la plupart des cas, c'est qu'elle présente des nausées, voire des vomissements. On sait maintenant que plus une jeune femme est angoissée, plus elle va présenter ce genre de tableau. Donc, on pourrait dire que c'est comme si l'embryon était là, bien sûr, Et dès qu'il est là, avec les moyens dont il dispose, il le fait savoir. Mais en fait, qu'en est-il donc de cette communication déjà corporéisante, de cette communication vomitive, de ce transfert nauséeux ? Bien, nous pourrions dire qu'il angoisse la mère. Selon une expression lacanienne, on pourrait dire qu'il hystérise la mère, qu'il la somatise ou qu'il la somme, mais il la somme de quoi ? Eh bien, c'est comme si déjà il disait à cette mère toute la responsabilité de la vie qui se développe en elle. Aura-t-elle finalement la capacité à accueillir un enfant qui sera peut-être très différent de ce qu'elle avait imaginé ? Aura-t-elle la force de supporter une mort in utero ? Aura-t-elle la force de supporter un enfant handicapé ? Un enfant délinquant ? Un enfant alcoolomaniaque, toxicomaniaque, un enfant qui un jour peut faire de la prison ou qui tout simplement peut perdre la vie prématurément. On voit d'ailleurs que effectivement les nausées peuvent renvoyer au mal de mère-eux, donc on voit qu'il peut aussi y avoir une difficulté bien sûr affective. Dès l'instant où la mère effectivement présente ce genre de tableau, elle peut être poussée à interrogation, qu'il s'agisse d'une interrogation implicite ou explicite. C'est-à-dire que si une jeune femme a engrammé, c'est-à-dire a retenu par schématisation, par reschématisation et surtout par identification, une image quant à sa propre mère de mauvaise mère, il est certain qu'elle peut avoir, elle aussi, une impression quant à elle de limite limitative pour accepter la venue d'un petit être. Alors, il peut s'agir de jeunes femmes, à tort ou à raison d'ailleurs, peu importe, puisque vous savez que le fantasme déforme, mais une jeune femme qui a eu une mère qui, elle aussi, a perdu un enfant prématurément, ou a fait des fausses couches, ou a eu un enfant handicapé, ou qui a quitté le père donc, de la jeune femme qui serait enceinte pour des raisons affectives, etc., etc. Donc on voit effectivement que l'embryon joue un rôle qui est beaucoup plus important que ce qu'il peut paraître. Et en analyse, l'on considère qu'un individu est sujet dès l'instant où il permet une interrogation chez l'autre. Et c'est ce qui m'a poussé donc à ne pas mettre de forme interrogative à cette première identité. Mais peut-on parler de violence dans l'IVG ? Alors, deux choses sont à considérer. Tout d'abord, une violence que l'on pourrait donc dire physique. Et pour étayer ma réflexion, je suis allée voir du côté d'adolescents qui s'automutilent.